Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde. Bienvenue à tous, vous écoutez Erdiwa 107.5. La pensée des peuples nous invite à nous questionner sur ce qu'est le mensonge et la vérité, les vérités, notre propre vérité. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est songe et mensonge, illusion du cœur qu'un espoir prolonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. Alphonse de Lamartine. Poème de l'amour d'Anna Brankovin. Les mots, sans qu'on les craigne, ont d'effrayants pouvoirs. Ils sont les bâtisseurs hasardeux des pensées. L'âme la plus puissante est parfois dépassée, par ces rêves actifs que l'on voit se mouvoir. Laissons se balancer dans leur ombre décente l'excessive tristesse et l'excessif besoin. Confions le secret ou la hâte oppressante au silence sacré qui ne les livre point. Un souvenir dormant cesse d'être coupable. Tout ce qui n'est pas dit est innocent et vrai. S'il consent à garder sa face sombre et stable, le mensonge lui-même est un noble secret. Ô vérité tentante, et qu'il faut qu'on esquive, monacale pudeur et fort renoncement, sainteté des torrents retenant leur eau vive, solitude du cœur et de la voix qui ment, tendresse de la main qui parcourt et qui lisse, la vie atténuée et calme des cheveux, tandis que le désir se prive du délice, de déchaîner l'orage éloquent des aveux. Résolution pure, auguste et difficile, de n'accaparer par l'esprit avec le corps, de rester étranger pour que le plus fragile ne soit pas prisonnier de l'ineffable accord. Feintiste d'être heureux en dehors de l'ivresse, accommodation aux paisibles instants. Plus que les cris, les pleurs, les secours, les caresses, vous êtes le mérite insondable et constant. Je le répète, j'aime la vérité. Je crois que l'humanité en a besoin. Mais certes, elle a bien plus grand besoin encore du mensonge, qui la flatte, la console, lui donne des espérances infinies. Sans le mensonge, elle périrait de désespoir et d'ennui. Anatole France. La vérité n'a pas besoin d'être dite pour être manifestée, et qu'on peut peut-être la recueillir plus sûrement, sans attendre les paroles, et sans tenir même aucun compte d'elle. Dans 1000 signes extérieurs, même dans certains phénomènes invisibles. Marcel Proust.
J'ai des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. J'ai des excuses tellement belles, tu voudras que je te trahisse pour les écouter. J'ai des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. J'ai des excuses tellement belles, tu voudras que je te trahisse pour les écouter. Dis-moi, puisqu'on en est là, dis-moi comment tu veux que je m'en sorte. Puisqu'il est hors de question qu'aucun de nous deux ne passe la porte. Je sais, je finirai par payer, mais la note est bien trop élevée. Te piéger car je t'aime. J'ai des mensonges qui rendraient la vérité jalouse. Et j'ai des excuses si puissantes que tu pardonneras tout. Dis-moi ce que tu veux. Des excuses, des mensonges, dis-moi. J'ai des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. J'ai des excuses tellement belles, tu voudras que je te trahisse pour les écouter. Dis-moi ce que tu rêves d'entendre, je te mentirai avec une voix d'enfant. Je traverserai la planète en rampant, je passerai le reste de ma vie à faire semblant. Droit dans les yeux, je te mentirai, tu verras du feu, de la fumée. Je sais c'est naze mais c'est trop tard, c'est comme ça, je laisserai pas juste une histoire tout gâchée. Puisqu'on en est là, dis-moi comment tu veux que je m'en sorte. Puisqu'il est hors de question qu'aucun de nous deux ne passe la porte. Je sais, je finirai par payer, mais la note est bien trop élevée. Désolée, je vais devoir te piéger, car je t'aime. J'ai des mensonges, des mensonges qui rendraient la vérité jalouse. J'ai des excuses, des excuses si puissantes que tu pardonneras tout. Mais dis-moi ce que tu veux.
La vieille tortue et la vérité brisée. À tous ceux qui recherchent les vérités et qui savent écouter le langage de la brise et celui des tortues. Il était une fois un pays lointain et merveilleux, un pays où chaque pierre était un maître et chaque souffle de brise un langage, où chaque lac était un miroir et chaque arbre une échelle vers les étoiles. C'est dans ce merveilleux pays qu'atterrit un jour une vérité. Elle tomba du haut des étoiles, balayant le ciel de son immense traîne. Mais, en tombant, elle se brisa. L'un des morceaux disparut dans le ciel nocturne, et l'autre atterrit dans ce beau pays. Au matin, Corbeau trouva le morceau tombé sur terre. C'était une sorte de pierre brillante, d'une saisissante beauté. Il la ramassa. « C'est une belle vérité, dit le Corbeau, je vais la prendre. » Et il l'emporta, il la garda un moment. L'examina avec soin. Cette vérité n'est pas tout à fait parfaite, se dit-il, il en manque un morceau, je vais en chercher une entière. Et il s'envola en la laissant tomber au sol. D'autres animaux, qui adoraient ce qui brille, remarquèrent eux aussi cette vérité. Renards, coyotes, ratons laveurs. Chacun la ramassa et la conserva un temps. Mais ils jugèrent tous qu'elle avait des arêtes blessantes et n'était pas facile à transporter. Ces éclats perdirent bientôt tout leur attrait. « Nous n'avons pas besoin de cette vérité brisée, dirent-ils. Nous allons en chercher une complète. » Papillons et ours, attirés par son parfum sucré, découvrirent à leur tour la vérité brisée. Mais tous deux trouvèrent qu'elle laissait un goût amer. « Il manque quelque chose à cette vérité, pensèrent-ils, et ils l'abandonnèrent. » Tant et si bien que, quelque temps après, plus aucune des créatures ne remarquait la vérité brisée, qui gisait sur le sol, oubliée de tous. Mais un jour, un homme la trouva. Il se promenait tranquillement en écoutant les doux murmures de la brise et en admirant les beautés du monde. Lorsqu'il la découvrit, elle portait une inscription qui signifiait « Tu es aimé ». L'homme la ramassa avec précaution, en pensant que c'était la plus belle chose qu'il avait jamais vue. Il la cacha en lieu sûr et la garda précieusement. Parfois, il la sortait pour l'admirer. Alors, la vérité scintillait, pour lui seul, et lui murmurait un message au creux de l'oreille. De sa vie, cet homme ne s'était jamais senti aussi fier et heureux. Mais il le fut plus encore quand il fit découvrir la merveilleuse vérité aux siens, à ceux qui vivaient avec lui, parlaient et s'habillaient comme lui, en un mot lui ressemblaient. Et tous se mirent à chérir cette nouvelle et merveilleuse vérité. Ils croyaient en elle, ils la serraient contre eux. Elle devint leur trésor le plus précieux. Peu à peu, l'homme et son peuple n'entendirent plus le langage de la brise, ni celui des pierres. Ils n'écoutaient plus que leur vérité. Ils n'étaient plus capables de voir la beauté que reflétaient les lacs, ni les échelles vers les étoiles. Ils n'avaient Dieu que pour leur vérité brillante. Et elle leur suffisait. Alors ils la nommèrent la vérité. La vérité leur procurait un sentiment de bien-être, de force et de fierté. Mais bientôt, ils éprouvèrent de la crainte et même de la colère envers ceux qui n'étaient pas comme eux et ne partageaient pas leur vérité. Les autres créatures et les autres habitants de leur beau pays leur parurent de moins en moins intéressants. Et rares étaient ceux qui étaient encore capables de comprendre le doux langage de la brise. Le temps passa. Nous voulons nous aussi posséder cette grande vérité, car elle donne bonheur et pouvoir, dirent les autres peuples. Alors il y eut de terribles batailles, et de combat en combat, la vérité brisée fut gagnée, puis perdue. Regagnée et à nouveau perdue, c'était sans fin. Mais son pouvoir et sa beauté étaient tels que personne ne doutait d'elle. Quand on ne la possédait plus, on ressentait un grand vide. Les arbres et les pierres souffraient, les brises et les eaux souffraient, tout comme les animaux et la terre. Et puis, plus que tout, les hommes souffraient. Alors les animaux allèrent trouver Vieille Tortue. Elle était aussi sage et vénérable que les montagnes et la mer. Corbeaux, renards, coyotes, ratons laveurs, papillons, ours et les autres, tous se rendirent auprès de la Vieille Tortue. « Cette vérité, lui dirent-ils, pour laquelle les gens se battent, nous l'avons tous eue en notre possession, mais elle est brisée et ne fonctionne pas. S'il te plaît, dis-le aux hommes. »« Je regrette, dit la Vieille Tortue, mais ils ne m'écouteront pas, ils ne sont pas encore prêts. » Et le malheur et la souffrance perdurèrent, jusqu'au jour où, une petite fille décida de rencontrer Vieille Tortue. Elle fit un très long voyage, traversa les monts de l'imagination, la rivière du doute et des pourquoi. Elle se fraya un chemin à travers la forêt des parce-que. Quand elle était trop fatiguée, elle s'installait sur le dos des animaux ou les ailes des oiseaux. Et tous l'aidaient à trouver son chemin. Enfin, ils arrivèrent sur une immense colline au centre du monde. La petite fille n'avait jamais rien vu de si lointain et de si beau. Mais lorsqu'elle vit la tortue, elle ne put lui parler. Elle se contenta de la regarder, les yeux tout émerveillés. « Pourquoi es-tu venue de si loin pour me voir, petite fille ?» lui demanda la vieille tortue. Sa voix semblait venir de loin, mais elle était aussi douce que le murmure de la brise sur les ailes d'un papillon. « Je voulais vous poser une question, » répondit la petite fille. « Là où je vis, la terre a mal et les gens souffrent. Ils sont tout le temps en guerre, les uns contre les autres. » Ils disent qu'il en a toujours été ainsi et que ça ne changera jamais. Est-ce que cela peut changer, vieille tortue? Pouvons-nous changer cela? Et vieille tortue parla. Petite fille, le monde n'a pas toujours été celui que tu décris. Et elle lui raconta comment les gens avaient trouvé la vérité brisée et le malheur que cela avait engendré. C'est parce qu'elle est très proche d'une grande et entière vérité qu'elle recèle tant de beauté. Et c'est pour cela que les gens l'aiment. C'est le morceau manquant de cette vérité dont les gens ont besoin, si l'on veut que le monde aille bien de nouveau. « Mais où se trouve ce morceau perdu ?» demanda la petite fille. « Pouvons-nous réparer la vérité ?»« D'abord, mon enfant, dit vieille tortue, rappelle-toi qu'il y a des vérités tout autour de nous et en nous. Elles scintillent la nuit dans le ciel et fleurissent sur terre. Elles tombent sur nous chaque jour, aussi silencieuses que la neige, aussi légères que la plume. » Les gens qui s'accrochent à leur unique vérité oublient qu'elle est une part de toutes les belles et petites vérités de la vie. Ils ne sont plus capables de voir et d'écouter ces mille petites vérités. Mais peut-être peux-tu... Je vais essayer, dit la petite fille. Elle repensa à son long voyage, elle admira toute la beauté qui l'entourait. Elle contempla les collines lointaines, les fleurs à ses pieds, la course des nuages, l'envol des oiseaux, la danse de la lumière sur la terre verte et foisonnante de vie. Elle écouta le délicieux murmure de la brise. Peu à peu, elle eut le sentiment que le monde entier était fait de vérité, comme s'il n'avait été créé que pour elle et qu'elle était faite pour lui. Un sourire intérieur illumina son cœur et elle pensa qu'elle comprenait peut-être. Elle regarda à nouveau Vieille Tortue, les yeux emplis d'une admiration débordante. Vieille Tortue reprit la parole. « Petite fille, rappelle-toi aussi la chose suivante, la vérité brisée et la vie elle-même ne seront réparées que lorsqu'une personne, en rencontrant une autre, quelqu'un d'un autre pays, quelqu'un de différent, ayant d'autres mœurs, sera capable de la voir et de l'écouter pour ce qu'elle est. Ce n'est qu'à cette condition que l'on comprendra que chaque personne, chaque être est important, et que le monde est fait pour chacun d'entre nous. » Les deux amies restèrent silencieuses un long moment, seules sur le toit du monde. La petite fille pensait en elle-même qu'elle pourrait rencontrer d'autres personnes dans d'autres beaux pays, des personnes avec d'autres façons de faire, d'autres vérités. Des gens très différents d'elle, mais des gens formant ensemble un seul et même peuple, l'humanité. Pour finir, elle posa une dernière question. « Vieille tortue, comment les gens vont-ils comprendre tout cela ?»« En recherchant autour d'eux ces petites vérités toutes simples, » répondit Vieille tortue. « En écoutant à nouveau le langage de la brise, en apprenant la leçon des pierres et des animaux, des arbres et des étoiles. En écoutant même, » ajouta-t-elle, « les tortues et les petites filles. Maintenant, mon enfant, il est temps pour toi de partir retrouver ton peuple et de lui dire ce que tu as vu, ce que tu as appris, et de l'aider ainsi à réparer sa vérité brisée. Emporte cela, » ajouta-t-elle, en lui glissant quelque chose dans la main. « Je l'ai conservé depuis très longtemps, pour quelqu'un comme toi. » La petite fille regarda ce que la vieille tortue lui avait donné. C'était une sorte de pierre, une pierre mystérieuse, merveilleuse. Elle était très agréable à toucher. La tenir procurait un sentiment de bien-être. Elle la serra étroitement dans sa main, puis la rangea avec soin pour le voyage. « Merci, vieille tortue, » dit-elle en étreignant le long cou tanné de son amie. Puis elle se mit en route. Elle parcourut à nouveau la forêt des parce-que, traversa la rivière du doute et des pourquoi, gravit les monts de l'imagination. Corbeau lui indiquait le chemin, et lorsqu'elle était bien fatiguée, tous ses amis animaux l'aidaient. De temps en temps, pour reprendre des forces, elle caressait la pierre que lui avait donnée Vieille Tortue. Son voyage dura très longtemps, enfin d'une certaine façon. Enfin, elle fut de retour. Mais ceux dont le cœur voyage longtemps reviennent transformés. Aussi ne la reconnut-on pas. Lorsqu'elle parla, on ne comprit rien. Elle fit le récit de son voyage, mais personne ne put en saisir le moindre mot. Elle parla d'un monde fait de petites vérités très douces. Elle expliqua que tous les hommes faisaient partie d'un seul et même peuple. Mais nul n'était capable de saisir la signification de ses paroles. Elle évoqua la vérité brisée, la nécessité de la reconstituer dans son entier. Mais chacun demeurait incrédule. Alors, voyant ce qui se passait, Corbeau vola jusqu'à la tour dominant le village, et où l'on conservait la grande vérité, dans un endroit où tout le monde pouvait la voir. Il coassa longuement et très fort, si bien que la petite fille comprit soudain ce qu'elle devait faire. Elle grimpa elle-même en haut de la tour, elle sortit de sa poche la pierre de la vieille tortue, et avec une infinie précaution, elle ajouta le morceau manquant à la vieille pierre brisée. L'ensemble se complétait parfaitement. Les gens regardaient, regardaient, regardaient. Les uns fronçaient les sourcils, d'autres souriaient, d'autres même riaient, d'autres encore pleuraient. Mais tous commencèrent à comprendre. Le temps passa, et dans ce beau pays, les arbres grimpèrent de nouveau en échelle vers les étoiles. Les eaux brillèrent telles des miroirs, dans lesquels les gens admiraient les reflets de la beauté. Quand la brise soufflait, tous entendaient sa musique. Nuit et jour tombaient de minuscules vérités, douces comme la neige, légères comme du duvet. Chacun les trouvait, les conservait dans le secret de son cœur. Et lorsqu'on rencontrait quelqu'un de différent de soi, on l'acceptait de plus en plus comme son semblable. Et très loin, sur une colline au centre du monde, Vieille Tortue souriait. La Vieille Tortue et la Vérité Brisée, de Douglas Wood et John J. Moost. Les enfants et les mensonges. Évitez les interrogatoires qui provoquent des mensonges défensifs. Les enfants détestent les questions pièges qui les forcent à choisir entre un mensonge maladroit et une confession embarrassante. Les enfants sentent quand les parents les soumettent à un interrogatoire dont ils connaissent pourtant déjà les réponses. Les enfants sont alors tentés de répondre par un mensonge défensif. Une attitude plus constructive et éducative serait alors de décrire les choses au lieu de jouer au détective ou au procureur. Le pourquoi a tendance à être perçu comme intrusif et culpabilisant. Faber et Maslisch écrivent « La question pourquoi ne fait que s'ajouter à leurs problèmes. En plus de leur détresse initiale, ils doivent maintenant en analyser la cause et en fournir une explication raisonnable. Très souvent, les enfants ne savent pas pourquoi Ils se sentent de telle ou telle façon. Par ailleurs, l'enfant n'a peut-être pas envie que l'adulte règle son problème et ne veut pas lui communiquer ses raisons. L'enfant sera plus à même de parler à un adulte qui accueille et accepte ce qu'il ressent qu'à un autre qui l'interroge pour obtenir des explications ou des justifications. Nier les sentiments et émotions des petits, c'est déjà leur apprendre à mentir. Le problème de nier les sentiments et émotions d'un enfant est que celui-ci apprend alors qu'il peut être dangereux de dire la vérité, de faire part de ses sentiments véritables. Quand il dit la vérité, il prend le risque d'être nié, voire puni. L'enfant peut alors avoir l'impression qu'il vaut mieux mentir et que les parents ne veulent entendre que des vérités plaisantes. L'enfant risque alors de ne plus dire comment il se sent vraiment, mais de dire seulement ce que les parents veulent entendre. Si l'on veut enseigner l'honnêteté, on doit être prêt à écouter les vérités amères, tout autant que les vérités plaisantes. Dr. Aim Ginott. Les mensonges des enfants et imagination. En comprendre la signification réelle. Isabelle Filioza explique. Les enfants ne font pas la différence entre réel et imaginaire, comme les adultes, jusqu'à environ 7-8 ans. Ils donnent le même niveau de réalité à leurs histoires, inventées, qu'aux faits réels. Tout ce qui n'est pas vrai aux yeux des parents n'est pas forcément un mensonge de la part de l'enfant. Aim Ginott ajoute que les enfants mentent aussi pour se procurer par l'imagination ce qui leur manque dans la réalité. Les mensonges sont des vérités sur les peurs et les espérances des enfants. Si le parent envisage le mensonge de cette manière, il pourra comprendre ce que l'enfant aimerait faire, avoir, être. Des déclarations compatissantes plutôt que des questions de détective. Évoquer et décrire le problème sans blâmer. Guider un enfant avec respect, en lui donnant des informations, sans leçon de morale, cela lui permet de garder sa dignité. Proposer de réparer. Lui demander de réparer, c'est aussi lui dire qu'on croit en lui, et le reconnaître capable d'apporter, à la collectivité, quelque chose de positif. De Isabelle Maheu, dans Sanctionner sans punir. Études sur les contes et l'honnêteté. Les contes où l'honnêteté est récompensée sont plus efficaces que ceux où le mensonge est puni. Selon une étude publiée dans la revue Psychological Science, un conte qui fait l'éloge de l'honnêteté d'un personnage est plus efficace pour inciter les jeunes enfants à dire la vérité qu'une histoire qui met l'accent sur les répercussions négatives d'un mensonge. Depuis longtemps, on a recours aux contes pour inculquer les valeurs morales et culturelles aux jeunes enfants. Afin de déterminer quels sont les contes les plus efficaces pour favoriser l'honnêteté chez l'enfant, Kang Li, Victoria Talwar et leurs collègues ont réalisé une étude auprès de 268 sujets de 3 à 7 ans. Tous ont participé à un jeu qui consistait à reconnaître un jouet au bruit qu'il faisait. Au milieu du jeu, l'expérimentatrice quittait la pièce, brièvement, pour aller chercher un livre, en demandant à l'enfant de ne pas regarder le jouet laissé sur la table. La plupart n'ont pu résister à la tentation d'y jeter un coup d'œil. À son retour dans la pièce, l'expérimentatrice racontait une histoire à l'enfant, puis demandait ensuite s'il avait ou non jeté un coup d'œil au jouet qui se trouvait caché sur la table. Contrairement à ce que les chercheurs avaient prévu, les contes où le mensonge était associé à des conséquences négatives, comme une humiliation publique comme dans Pinocchio, ce n'est pas plus efficace qu'une femme n'ayant aucun lien avec l'honnêteté pour promouvoir un comportement honnête. Seule l'histoire dans laquelle le jeune George Washington est félicité par son père après qu'il eut admis avoir coupé son cerisier préféré semblait inciter les enfants à admettre qu'ils avaient jeté un coup d'œil au jouet laissé sur la table. Les enfants à qui on en avait raconté cette histoire où le futur premier président est félicité par son père pour avoir avoué sa faute étaient 3 fois plus susceptibles de dire la vérité que leur père à qui l'on avait raconté d'autres histoires. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la réponse du père de George Washington lorsque ce dernier lui avoue son geste, est la suivante. Le courage et la sincérité de mon fils ont plus de valeur que 1000 arbres, eussent-ils des fleurs d'argent et des fruits d'or. Selon Victoria Talwar, l'histoire originale portant sur George Washington est efficace, car elle montre les conséquences positives de l'honnêteté, en laissant comprendre quel type de comportement est souhaitable, ainsi qu'en donnant un exemple concret du comportement désiré. Notre étude montre qu'il est préférable de souligner les conséquences positives de l'honnêteté plutôt que les conséquences négatives de la malhonnêteté, pour inciter les enfants à adopter un comportement juste. Outre Kangli et Victoria Talwar, les co-auteurs de l'étude incluent Anjani McCarthy et Ilana Ross, Angela Evans et Cindy Arruda.
Sur le fil en trompe-l'œil, en mirage des croix de bois. Des hommages, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que t'as tiré au sort? Moi, je suis menteur, amnésique, mauvais joueur et amoureux transi. J'ai pas de nom, pas de fierté, pas d'orgueil ni de courage. Être ici, là-bas et tout à la fois. Je suis bandit, pirate, voleur. Aviateur, c'est vivre à 200 à l'heure. Mais j'ai pas de plomb dans l'aile, m'en veux pas ma mère. Et si je suis pas claire, c'est qu'ici c'est l'enfer. C'est qu'ici c'est l'enfer, j'arrive pas à m'y faire. La 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 la, 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 la la. Mais si c'est que des vieilles querelles, des jours de grêle, j'ai des perles, des palais. Une mine d'or, c'est pour toi. J'y enfermerai ton nom à l'intérieur. J'y enfermerai toi, ton nom. C'est les couleurs, mais je connais rien de sa vie simplement. Qu'elle habite tout près, à deux pas d'ici. Et j'aime passer du temps assis sur un banc et la regarder filer au milieu des passants. Au milieu des passants. À la voir s'éloigner, j'hésitais un instant. Est-ce que vous auriez du feu, une minute ou deux, lui parler du beau temps? Lui parler du beau temps, mais je lui dirais qu'elle est celle qui remplit mes jours et l'appeler ma chérie, ma folie, mon amour. Moi je vendrais mes cracks, mon ciel, mes rêves et pour un gardel. La 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 la.
Qu'est-ce qu'un mensonge? Qu'est-ce que mentir? Et pour quelles raisons mentons-nous? Nous mentons pour plusieurs raisons. Si le but du mensonge est dirigé vers quelqu'un d'autre, comme pour protéger ou ne pas vexer quelqu'un, le mensonge est alors dit altruiste. Au contraire, si le mensonge est fait pour assouvir ses propres finalités, le mensonge est alors dit égoïste. Le mensonge met en jeu un certain nombre de processus cognitifs et émotionnels qui vont s'exprimer volontairement et involontairement, au travers de plusieurs indices. Ces indices vont s'exprimer au travers de trois canaux de communication, qui sont le verbal, la linguistique, les mots, le paraverbal, Ton de la voix, durée des pauses, et le non-verbal, expression faciale, geste. La vérité, c'est de vivre et non pas de survivre, mais aussi de respecter, sans jamais maugréer. La vérité, c'est d'offrir, toujours avec plaisir, et de savoir donner, sans vouloir être remercié. La vérité, c'est triompher, en sachant fraterniser, et en ouvrant sa main, pour faire un monde plus humain. La vérité, c'est de renverser les barrières que l'homme a dressées, en instaurant enfin la tolérance, dans tous les pays, et même en France. La vérité, c'est de blêmir devant la nature en train d'agonir, mais c'est aussi de bâtir l'unité et non de la démolir. Serge Léonard. Il y a longtemps, très longtemps, le dieu de la nature voulut savoir qui du mensonge ou de la vérité avait le plus de succès auprès des hommes. Un jour, il les convoqua tous les deux et leur ordonna d'aller vivre au pays des êtres humains. Le mensonge prit la forme d'une splendide fleur, très odorante, aux couleurs étincelantes. La vérité revêtit des habits d'un arbre épineux aux fruits amers. Lorsqu'ils se présentèrent devant les hommes, tout le monde applaudit le mensonge, il était éblouissant et il diffusait d'agréables senteurs. Quant à la vérité, personne ne la regardait. Les estomacs étaient remplis, nul n'avait besoin d'elle. Quelques années plus tard, la famine vient s'installer dans le pays. Les hommes rejetèrent la fleur et se ruèrent sur les fruits que portaient les branches épineuses de la vérité. C'est alors que le dieu de la nature déclara « Mensonge, tu fleuriras, mais tu ne fructifieras jamais. Tu plairas aux hommes, mais tu ne feras pas leur bonheur. Vérité, tu seras âpre, dur et parfois tu sentiras mauvais. » Mais tu finiras toujours par faire le bonheur des êtres humains. Souleyman Mbodj.
Timbelele, la reine lune.
De Touré Kunda. Dans la grande Afrique, Mdongo le léopard se croit le roi des malins. Il invente une ruse chaque fois qu'il a faim.
Sur son perchoir, dans l'arbre parfum.
Tsongiligili le perroquet moqueur
va venir Mdongo le léopard.
Au bord du fleuve, Mdongo se penche sur l'eau. Timbelele, petit poisson, viens, viens, viens me voir. Papa léopard, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires. Dans l'eau, les poissons dorment au creux des racines de l'arbre parfum. Timbelele a ouvert son œil rond.
Papa léopard, raconte-moi mon histoire.
Timbelele, mon cher petit poisson, c'est toi que la lune a choisi. Elle m'a chargé de te dire la nouvelle. Le village est trop petit pour une reine comme elle. Cette nuit, elle ira briller ailleurs. Ton fleuve n'aura plus ses reflets d'argent. Timbelele, le petit poisson, est triste. Il pleure dans l'eau du fleuve. Ses larmes ne se voient pas, mais elles roulent au fond. Mdongo, le léopard, fait semblant de consoler Timbelele.
Accroche-toi à ma queue, je te pêcherai.
Et t'emmènerai là où la lune est reine maintenant. Tongiligili, le perroquet moqueur, dégringole de branche en branche dans l'arbre parfum.
Attention, attention, Timbelele.
Mais Timbelele est déjà hors de l'eau, et Mdongo le léopard le saisit et l'avale tout cru. Tongiligili, le perroquet moqueur, fait un raffut de tous les diables.
Alerte, 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 Mdongo le léopard l'a gobé et il n'y a plus la lune.
L'antilope, le singe, la tortue, le lézard accourent à toute allure de leur cachette. Le bœuf, la chèvre, l'araignée et la poulette arrivent à toutes pattes du village. Ô belle reine de la nuit, ne nous laisse pas dans le noir, dans les parfums, les petits bruits. Nous, pauvres animaux, les yeux du léopard nous transpercent jusqu'aux os. Si ça, la tortue est un peu sorcière, elle sait des formules magiques. Elle en prononce une à haute voix.
Au boudou, au couteau-couteau, boudou.
Puis elle prend de la terre au pied de l'arbre au parfum et la lance en l'air. Si ça, la tortue a fait tomber la nuit. La lune apparaît, mais aïe aïe aïe, elle est fâchée. Elle a reçu de la poussière dans l'œil. Tsongiligili, le perroquet moqueur, bafouille.
Pardon, pardon, reine lune.
Je viens toutes les nuits, même si l'on ne me voit pas, dit la lune en se repoudrant d'argent.
Puis elle disparaît.
Le jour renaît. Naomo le bœuf a bien réfléchi.
Ndogo le léopard a menti.
Il s'est rempli l'estomac en racontant une histoire abracadabrante. Donnons-lui une leçon. Je vais lui mordre la queue, dit la tortue.
Le petit nez, dit l'antilope. L'entortillé, dit l'araignée.
Je vais lui flanquer une pleure bleue, dit Tiwi la poulette. Tiwi la poulette appelle Ndongo le léopard. Je sais que tu rêves de me manger, mais tu n'as jamais pu m'attraper. Je parie que tu ne peux pas faire comme moi, avoir la tête coupée et chanter. Si tu réussis, je me laisserai manger. Mais sinon, tu n'auras plus qu'à déguerpir loin d'ici. Qui commence ? Ndongo le léopard se croit malin.
À toi l'honneur.
C'est Tiwi la maligne. Elle cache sa tête sous son aile, comme elle le fait pour dormir. Elle crie à travers ses plumes.
Esprit, esprit, je suis l'esprit de la forêt.
Alors en écho, l'esprit du fleuve se met à rire, l'esprit des feuilles, l'esprit du vent, l'esprit des pierres se met à rire. Tsongiligili, le perroquet moqueur, regarde l'antilope, le singe, la tortue, le lézard, la chèvre et l'araignée. Tous se mettent à rire si fort.
Que Ndongo le léopard, des camps et cours encore.
La vérité ou les vérités. Comme je le dis souvent, je parle ici ou d'ailleurs de mes vérités. Celles qui sonnent juste en mon cœur, celles qui sont le fruit de mes ressentis et plus volontiers celles que j'ai expérimentées. Ces vérités peuvent être partagées par d'autres ou non, car chacun est libre de prendre ce qui résonne et vibre en lui. Ainsi, il existe autant de vérités qu'il existe d'êtres humains. Même si parfois de grandes lignes se rejoignent, il existe tout de même des milliers de chemins, de bifurcations, de virages. Je me suis alors interrogée sur cette pluralité de croyances, mais surtout sur le fait que certaines expériences les validaient et en faisaient des vérités, tandis que d'autres les infirmaient pour en faire des illusions. J'adore l'histoire de Peter Pan, le passage sur les fées est si parlant. En effet, quand on croit aux fées, on leur donne vie, on leur permet d'exister dans notre réalité. A contrario, lorsque l'on ne croit pas en elles, ces dernières disparaissent et meurent, et on ne peut les voir ou les ressentir. Un formidable enseignement se cache ici. Nous donnons vie ce à quoi nous donnons foi. Nous créons donc, pour ainsi dire, notre propre réalité. Notre pouvoir créateur est l'impulsion, l'énergie de vie, qui permet à toutes nos créations de coexister. Et ce, peu importe leur teneur, qu'elles œuvrent pour l'ombre ou la lumière, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, qu'elles servent ou desservent. Il existe seulement ce à quoi nous croyons. Tout commence par soi-même, tout part du soi pour aller vers l'extérieur. Et bien entendu, ceci est ma vérité. Lorsque nous croyons très fort à quelque chose, nous en faisons notre vérité. Nous rendons vivantes nos créations en les nourrissant de nos émotions. Alors la peur, l'amour, la tristesse, la joie sont tant d'émotions qui offrent un large éventail d'expériences de vie. Ainsi naissent des créations diverses et variées, allant de la plus lumineuse à la plus obscure. Parfois, les vérités des uns et des autres s'unissent. Elles deviennent alors si fortes et concordantes. Ainsi, nos pensées, croyances, vérités peuvent se matérialiser et le feront un jour ou l'autre. Cela semble contradictoire, mais il peut donc coexister deux vérités opposées, sans que l'une ou l'autre ne soit fausse, car chacun vit dans le monde de sa propre création. Alors, pourquoi ne pas faire dès maintenant une révision de nos vérités, se délester de ce qui sonne faux en soi ? Se débarrasser de ce qui nous enferme, se détacher des croyances proposées par autrui, pour suivre notre propre guide intérieur. Émilie de Dieu. Merci pour votre écoute et cherchons ce qui se cache derrière nos vérités et nos mensonges.